Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bienvenue et bonjour spécial aux dames qui nous écoutent cette semaine. Vous le savez, la Journée internationale de la femme a été célébrée vendredi 8 mars. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, bonjour à vous particulièrement évidemment et à toutes les femmes du monde.
Et il me semble que vous avez préparé une belle et étonnante surprise pour nos auditrices.
Oui, que je pourrais.
C'est un poème, c'est une chanson.
Je vous promets de vous lire à la fin de l'émission si on ne déborde pas le chronomètre.
D'accord, on fera en sorte qu'on reste dans les temps parce que j'ai hâte d'écouter ce poème personnellement. Voilà, l'opposition béninoise devrait être absente des législatives du 28 avril prochain. Après l'invalidation des candidatures des membres issus de ses rangs, aucun de ses représentants n'a été autorisé par la commission électorale autonome à se présenter. Comment la classe politique et les Béninois réagiront-ils à cette situation inédite dans l'histoire de la démocratie béninoise? Nous entendrons l'analyse de nos invités. Les femmes peuvent-elles, dans un proche avenir, avoir les mêmes droits que les hommes? Cette question revient souvent à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée chaque 8 mars. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité pour annoncer un projet de loi censé faciliter la participation des femmes dans la vie politique du pays. Un quota minimum de 30% de femmes est imposé sur le nombre total des candidats présentés pour toutes les élections sauf la présidentielle. La loi peut-elle régler la disparité entre hommes-femmes? On le verra tout à l'heure lors des débats. Depuis plusieurs jours, les Algériens manifestent pour exiger de leur président cloué dans un fauteuil roulant après un accident vasculaire cérébral fin avril 2013 de renoncer à briguer un cinquième mandat. Abdelaziz Bouteflika va-t-il céder à la pression populaire et retirer sa candidature ou va-t-il la maintenir? Analyse à suivre. Francis, à vous pour le plateau.
Il y a notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Cotonou, Christelle Rundonoubo, secrétaire nationale adjointe chargée de l'administration de l'Union progressiste. C'est une coalition de partis de la mouvance présidentielle au Bénin. Elle est candidate aux élections législatives du 28 avril prochain au Bénin. Madame Rundonoubo, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis, et bonjour à tous les éditeurs de BBC Afrique.
Merci d'être avec nous, madame.
Et de Africa numéro 1 Paris.
Et notre consoeur invitée dans cette édition, au téléphone depuis Lomé, Kayi Lawson, rédactrice en chef d'AfricaRDV.com. Kayi Lawson, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs de la BBC de
Canada. Merci d'être avec nous. Une petite fiche de présentation de notre grand témoin, Madame Christelle Rundonoubo, professionnelle des médias. Vous avez exercé votre métier au sein d'entreprises de télévision au Bénin, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire et d'un master en management de l'administration et des organisations de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous avez occupé plusieurs postes dans l'administration béninoise comme conseillère technique au ministère des Sports, puis à la direction du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi. Engagé dans un parcours politique, vous avez été élue en 2011 puis en 2015 députée suppléante. En février 2017, vous êtes élue présidente du Congrès du Peuple pour le Progrès, un mouvement qui s'alliera plus tard en 2018 avec d'autres formations politiques en vue de fonder l'Union progressiste, l'UP, inscrite dans la majorité présidentielle. Vous êtes l'une des deux femmes membres de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste et vous êtes candidate titulaire sur la liste de cette formation pour les législatives d'avril prochain de la 9e circonscription électorale du Bénin. Présidente de l'ONG Défense sans frontières, ONG impliquée dans les actions en faveur des personnes en milieu carcéral et dans les lieux d'accueil de personnes vulnérables. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Accusé mais pas coupable », un ouvrage qui retrace la vie en milieu carcéral. Christelle Rundonoubo, vous serez notre grand témoin de cette édition de débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. À vous Liliane, à Dakar.
Merci de nous donner cette opportunité. Merci beaucoup.
D'accord, merci. L'invalidation des candidatures de l'opposition pour les législatives du mois prochain au Bénin suscite colère et incompréhension, mais aussi des inquiétudes. Sur la liste rendue publique mardi, seulement deux formations politiques pro-pouvoir, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, y figurent. C'est historique et mauvais pour la réputation démocratique du Bénin, a réagi notamment Gustave Assa, qui est le président de Task Force citoyenne de la CDAO, une organisation de la société civile. Il soutient aussi, madame, que l'absence de l'opposition aux prochaines législatives n'augure pas d'un lendemain meilleur ou de la paix au Bénin. Madame Undonubo, partagez-vous la crainte de certains Béninois, dont Gustave Assa, dont je viens de mentionner, ou êtes-vous au contraire sereine et rassurée de ce que l'absence de l'opposition aux prochaines législatives, celle du 28 avril prochain, ne compromettra pas la tenue de ce scrutin?
Alors, madame, je voudrais comprendre en fait l'inquiétude de M. Assa, puisque depuis bientôt 30 ans au Bénin, nous allons aux élections avec toute la classe politique béninoise, qu'elle soit organisée ou non. Et donc nous avons été toutes les fois aux élections avec tout le monde et dans des conditions des fois extrêmement difficiles. Et j'avoue qu'aujourd'hui, c'est bien normal que la classe politique béninoise, qu'elle soit de l'opposition, même de la mouvance, ait des inquiétudes par rapport à la situation actuelle du pays. Mais quand nous prenons un peu de recul, nous devons constater et nous devons admettre qu'actuellement, après 30 années d'exercice de démocratie, excusez-moi, que j'ai toujours appelé démocratie à tout vent, il nous faut marquer un arrêt, établir les normes et nous mettre dans une certaine discipline. Et j'avoue que, étant dans certaines pratiques par le passé, aujourd'hui nous sommes surpris par l'application des tests que nous nous sommes nous-mêmes donnés.
Mais dans la... Je suppose, madame, vous faites allusion au nouveau code électoral qui a été adopté.
La charte des partis politiques et le nouveau code électoral.
Oui, mais tout cela a été adopté dans un contexte très controversé. Ce texte a été largement contesté par une partie de la classe politique.
Écoutez, nous pensons que les tests sont votés à l'Assemblée nationale. Et les tests ont été votés par la majeure partie des députés à l'Assemblée nationale. Et donc par la majorité des députés. Dès lors que les tests sont votés et que la conformité est consacrée, la promulgation est faite, je crois que nous devons tous nous soumettre donc aux tests, aux lois. Quitte à trouver les portes prévues par notre Constitution pour contester ou pour protester ou demander peut-être la réélection de certaines lois votées au niveau donc du Parlement en ce qui concerne les élections. Donc la charte des partis politiques votée à l'Assemblée nationale, le code électoral, toutes ces lois promulguées et mises en exécution rattrapent, j'avoue, les uns et les autres. Et je voudrais vous rassurer que nous-mêmes, au niveau de l'Union progressiste, nous avons eu énormément de problèmes quant à la conformité avec ces tests. Nous avons travaillé assidûment, nous avons travaillé très dur, nous sommes allés très vite pour pouvoir avoir le certificat de conformité pour aller aux élections et déposer notre liste au niveau de la Sénat. Le ministère de l'Intérieur du Bénin a fait un travail de fourmi, ce à quoi nous n'étions pas habitués. Nous avons été dans une certaine légèreté qui aujourd'hui rattrape les uns et les autres. Au niveau de l'Union progressiste,
merci.
Je vous assure, madame, que nous avons reçu du ministère de l'Intérieur 36 pages d'observation quand nous avons déposé notre dossier. Et nous avons eu 2 rejets au niveau du ministère avant de nous conformer.
Oui, alors, merci. Ceci dit, au bout de ce parcours, seules 2 formations politiques soutenant le président Patrice Talon ont été donc admises à compétir pour cette élection. Madame, c'est vrai que la loi électorale et la charte des partis politiques ont été adoptées, effectivement. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la fourniture d'un certificat de conformité et du fameux quitus fiscal. Ces 2 éléments n'étaient pas inscrits dans la loi électorale et la charte des partis. Ce sont des dispositions qui ont été décidées ultérieurement par la Cour constitutionnelle, non?
Non, pas du tout.
Ah bon.
Pas du tout. Quand nous prenons par exemple le quitus fiscal, je crois que cette question a été débattue par l'ensemble des formations politiques. Et il était question pour nous que nous puissions assainir un peu l'environnement politique de notre pays, l'environnement économique de notre pays. Tenez, que penserait la population de ces élus qui ne sont pas en conformité ou en règle avec le FIS, mais qui prétendent siéger à l'Assemblée nationale, voter des tests pour qu'on les applique à ces populations? Il y a un problème qui se pose, il y a un problème
éthique qui se pose à ce niveau. Et chaque Béninois et chaque Béninoise devra se libérer en fait de ses engagements vis-à-vis de l'État. Et donc, en ce qui concerne le quitus fiscal, le problème ne devrait pas se poser pour le citoyen béninois que nous sommes.
D'accord,
que
madame.
Chacun est.
Madame Ondangba, est-ce qu'on s'achemine quand même vers une décision politique? Parce que je suppose que vous-même, en tant qu'actrice politique, vous serez quand même un peu gênée d'aller à une élection pour la première fois au Bénin depuis 30 ans où ne serait pas présente l'opposition. Parce que comment peut-on comprendre que des partis comme le FCBE, qui a une trentaine de députés, hein, je crois, à l'Assemblée nationale, sur une cinquantaine, soit considéré du jour au lendemain comme un parti inexistant?
Aujourd'hui, les forces coalitions pour un Bénin émergent ont environ une dizaine de députés à l'Assemblée nationale. Et je crois que quand on fait le point des partis qui ont des problèmes de conformité au niveau, donc déjà du ministère de l'Intérieur, les forces coalitions pour un Bénin émergent font partie donc de cette catégorie.
Oui.
Vous, je comprends votre question que vous me dites.
Mais aussi
si
l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon.
Oui. Bien entendu que le parti USL est dans le même cas. Et quand vous prenez, en fait, les griefs que le ministère a contre ces partis politiques, c'est des choses évidentes. Quand vous prenez certains partis politiques qui, au lieu de se conformer, c'est-à-dire, au lieu de se conformer, parce que la charte des partis politiques aujourd'hui nous recommande d'avoir au moins 15 membres fondateurs dans chaque commune de notre pays, et que c'est des partis qui étaient déjà nés et qui devaient se conformer et qui n'utilisent pas les voies nécessaires pour se conformer, oui, et qui vont au ministère de l'Intérieur, souffrent qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on dise « allez vous conformer et revenez chercher les papiers
oui. ».
Au niveau de l'USL, c'est pareil, mais l'USL, par exemple, a essayé de forcer un peu, je crois, et aller jusqu'à déposer ces documents au niveau de la Sénat sans le certificat de conformité. Je voudrais juste dire, est-ce que, tout en disant que nous restons dans un état de droit, un état démocratique, nous acceptons que nous puissions nous engager dans des élections sans respecter les tests que nous avons nous-mêmes posés? Je crois que le problème est là.
Madame, vous avez admis que vous-même, vous également au sein de votre parti, vous avez eu du mal à fournir tous les documents nécessaires pour que votre candidature soit acceptée. Et aussi, même le président Talon lui-même a déclaré qu'il n'est pas à l'aise de partir à une élection où l'opposition est absente. Donc cela, est-ce que cela ne signifie pas finalement que oui, même la majorité, y compris le président, ont pris acte de ce que cette différence dispositions n'étaient pas les bonnes à prendre et qu'elles n'étaient pas
qu'elles ne
travaillaient pas pour
que...
la promotion de la démocratie.
Non, je ne pense pas que, en tout cas, dans ce que le président de la République a déclaré, ce que nous pensons, ce n'est pas que nous n'avons pas pris les bonnes décisions ou les bons tests, non. Et quand je dis tout à l'heure qu'au niveau de l'Union progressiste, nous avons eu des difficultés, c'est vrai. Parce que nous étions installés dans une pratique qui nous permettait d'aller et de venir comme nous voulons et de laisser les dossiers que nous voulons, de ne pas respecter strictement les tests.
D'accord.
Et que nous sommes maintenant fait face, confrontés à des structures de l'État, oui, l'administration, qui exige à un moment donné que nous puissions nous conformer aux tests, que nous puissions respecter.
Donc
les
vous
tests.
Accusez l'opposition d'être de mauvaise foi, de refuser volontairement de se conformer à la loi.
Je n'accuse pas l'opposition de se conformer à la loi, mais nous faisons le constat qu'il y avait quand même du temps pour que les uns et les autres prennent les dispositions nécessaires, se conformer aux règles de la République et aller aux élections. C'est le constat que nous faisons.
Alors, au bout du parcours, on est quand même aujourd'hui, je veux dire, face à une crise politique au Bénin, vous le savez, et après la publication de la liste des partis autorisés à se présenter aux législatives, le chef de l'État avait déclaré, il a déclaré ceci il y a quelques jours, hein, le constat est malheureux, disait-il, organiser des élections sans aucun parti d'opposition, cela n'honore pas le Bénin. Je ne suis pas à l'aise. Pourtant, c'est le même chef d'État, le même Patrice Talon, qui avait déclaré quelques jours plus tôt devant des représentants des partis que l'absence de l'opposition aux élections ne le dérangeait pas. Lequel Patrice Talon faut-il croire?
Mais je crois que la dernière phrase, je ne l'ai pas entendue du chef de l'État.
Il y a même
le chef
des images,
de l'État a dit qu'il serait désolé, qu'il serait bien désolé de ne pas voir l'opposition aux élections législatives.
Oui, ça c'était...
Et je voudrais juste
il y a eu deux temps.
Que nous sommes en démocratie. Au Bénin, nous appelons tous au respect de l'état de droit et que chacun, à son niveau, doit travailler au renforcement de l'état de droit. Et que l'état de droit au Bénin ne doit pas faire de spécificité.
Alors pourquoi, alors pourquoi aujourd'hui, alors le chef de l'État demande au bureau de l'Assemblée nationale de, je cite, corriger le tir et de trouver une solution de sortie de crise? Quelle solution veut prendre l'Assemblée nationale?
Parce que c'est le législateur. C'est le législateur.
Oui.
C'est le législateur qui nous a dotés de ces tests. Et donc, si aujourd'hui, le législateur pense que ces tests ne permettent pas de garantir une certaine sérénité du processus électoral, et que le législateur trouve les voies et moyens sans pour autant aller violer la Constitution pour qu'on trouve une solution, et ce serait tant mieux.
L'opposition demande carrément l'abandon de ces dispositions.
L'opposition ne peut pas, dans un état de droit, elle, en tant qu'opposition, qui demande le respect des tests, le respect des lois de la République, ne peut pas nous dire, dans une République qui se respecte, d'abandonner tout de go un processus sans aller légiférer.
Mais dans ce cas, quand le président s'en remet à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va s'y passer?
Mais nous attendons, puisque la conférence des présidents a été convoquée par le président de l'Assemblée nationale, certainement qu'ils iront en session extraordinaire, et nous attendons tout ce qui sortira de la session extraordinaire.
Cela signifie donc que tout le monde a constaté une anomalie politique. L'anomalie politique est avérée désormais donc.
Je ne pense pas qu'il y ait une anomalie politique avérée. Parce que dans un pays démocratique, dès lors que nous avons 2-3 listes en présence, nous pouvons aller aux élections et dire que nous sommes dans une démocratie et que nous allons aux élections. Mais nous ne pouvons pas non plus constater ou attendre ou suspendre un processus électoral, et tout simplement parce qu'il y a quand même certains partis politiques qui, de leur fait, en fait, se sont retrouvés dos au mur. Aujourd'hui, je crois que l'opposition sait qu'elle n'a pas pris les dispositions nécessaires au temps opportun. Trouver une solution de sortie de crise, oui, mais tout en restant collé aux règles de la République.
Est-ce que le report de l'élection du 28 avril est inévitable?
Ce n'est pas encore envisageable, puisque nous, en réalité, nous sommes partis politiques. Nous ne sommes pas structure ou instance en charge de l'organisation des élections. Nous ne sommes pas le législateur et nous ne sommes pas l'arbitre du contentieux électoral au Bénin, la Cour constitutionnelle. Donc, il y a ces instances qui vont se prononcer et puis on verra.
Est-ce que vous y êtes favorable, madame? Au report des élections.
Je crois que dans un État comme le nôtre, avec le processus que nous avons engagé depuis quelques mois, je n'aurais pas souhaité en fait que nous puissions nous engager dans des reports d'élections. Nous avons des contraintes de calendrier, de temps.
Au-delà des questions, de principe, est-ce que vous-même, personnellement, vous êtes embarrassé face à cette situation, le fait que deux partis de la mouvance présidentielle se retrouvent aujourd'hui seuls en compétition pour des législatives ou pas?
Je voudrais vous dire
quel est votre sentiment personnel.
Je ne suis pas embarrassée en fait. Je ne suis pas embarrassée, mais je dis l'idéal pour la démocratie béninoise, c'est que l'opposition puisse aller aux élections. Que l'opposition aille aux élections dans le respect des tests de la République.
Ce n'est pas l'idéal, c'est la règle en général en démocratie, hein, qu'il y ait l'opposition, le pouvoir, qui aille à une compétition. Ce n'est pas l'idéal.
Mais écoutez, l'idéal, c'est qu'il y ait la compétition. Oui. Maintenant, s'il y en a qui refusent la compétition, nous faisons quoi? Nous tordons le cou aux tests de la République pour les amener vers la compétition?
Donc, ça ne vous gênerait pas de vous retrouver deux blocs de la mouvance présidentielle pour les élections législatives sans opposition en avril prochain?
Les élections sont démocratiques dès lors qu'il y a deux listes qui sont en compétition.
Deux listes de la même mouvance.
Deux listes quand même.
Madame, vraiment en un mot, est-ce que la commission électorale peut-elle encore garder toute sa crédibilité après avoir invalidé toutes les candidatures d'opposition?
Mais madame, nous n'avons aucune raison qui nous permette aujourd'hui d'affirmer que la Sénat n'est pas crédible. La Sénat a fait son travail, la Sénat a motivé ses décisions. C'est aussi ça, la Sénat a motivé ses décisions et a envoyé copie à chaque parti politique. Et merci. Donc les partis politiques qui en réalité ne se retrouvent pas avec le récépissé définitif de la Sénat savent bien ce que la Sénat leur reproche.
Merci beaucoup. On marque une pause.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat. Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Avec notre grand témoin invité depuis Cotonou au téléphone, Christelle Rondonoubo, secrétaire nationale adjointe chargée de l'administration de l'Union progressiste, coalition de partis politiques de la mouvance présidentielle au Bénin. Et notre grand témoin est candidate à la prochaine élection, aux prochaines élections législatives. Du 28 avril prochain au Bénin. Notre consoeur invité dans cette édition au téléphone depuis Lomé, Kay Lawson, rédactrice en chef d'Africa RDV ou rendez-vous.com. Kay Lawson, on va peut-être vous demander un commentaire à ce stade de l'émission sur cette situation en cours au Bénin.
Écoutez, Madame Ndongo, elle dit que pour elle, il n'y a pas nécessité de reporter les élections pour le respect des calendriers électoraux. Je sais qu'il y a des dispositions qui prévoient que dans des cas de conflit et que le président même a reconnu que cette situation l'embarrassait à confier le dossier à l'Assemblée nationale, il serait judicieux de penser à un report de ces élections-là pour que ces élections-là soient vraiment ouvertes et démocratiques. Parce que en allant à ces élections dans ces conditions-là, on risque d'avoir une Assemblée nationale monocolore, comme on le dit. Et quand on sait que, quand il y a une Assemblée et qu'une seule partie est représentée, ça ouvre la voie à beaucoup de dérives et ce n'est pas ce qu'on pourrait souhaiter au Bénin.
Merci beaucoup, Kay Lawson. Madame Christelle Houdanoubo, il faut quand même rappeler aux auditeurs que cette affaire a provoqué déjà plusieurs manifestations de colère à travers le pays, des manifestations qui ont été réprimées, on déplore des morts et des blessés, une situation inédite dans le pays. Quelle réflexion vous inspire cette dégradation de la situation politique et sociale dans le pays?
Non, je pense que c'est un peu exagéré de parler du Bénin en ces termes aujourd'hui.
Ah ben, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière.
Qu'il y a eu une manifestation dans un village du Bénin, dans le centre.
Le pont
du
de Porte-Novo a été bloqué, vous le savez bien.
Le pont de Porte-Novo a été bloqué. Combien de fois les ponts sont bloqués dans nos pays africains?
Mort et blessé.
Nous avons juste à réagir par rapport à une situation. Je pense que c'est des phénomènes que nous constatons dans nos pays quand nos populations sont plus ou moins mécontentes. Et donc cela ne suppose pas qu'aujourd'hui au Bénin, qu'il n'y a pas un climat de paix et qu'il y a en réalité est péri à la demeure. Je dis, ce n'est pas que j'affirme qu'aujourd'hui qu'il ne faut pas faire attention, qu'il ne faut pas rester vigilant par rapport donc au climat de paix.
Mais vous semblez minimiser ces manifestations, vous semblez dire qu'il n'y a pas péri à la demeure.
Bon, c'est vrai que c'est des manifestations qu'il faut minimiser. Il faut minimiser ces manifestations dans le contexte actuel de notre pays.
Et puis, madame, avec des victimes quand même, non?
Oui, vous savez quoi? C'est vrai que nous, au Bénin, nous constatons que nous sommes installés dans un environnement de liberté excessive.
Excessive.
C'est comme si, nous sommes dans un environnement de liberté excessive. Ah. Et dès lors que les réformes nous ramènent à la juste valeur des choses, nous ramènent aux normes qu'il faut, nous avons tous le sentiment qu'il y a quelque part quelqu'un qui veut nous forcer la main ou qui veut nous sortir de la démocratie.
Non. Madame,
mais il est important. Oui.
Oui. Est-ce que vous minimisez, je le disais, l'ampleur des manifestations, mais est-ce qu'au fond ces manifestations, est-ce que ce ne sont pas elles qui ont poussé le président Talon à revenir un peu sur ses propos? Francis mentionnait deux propos différents tenus en l'espace d'une semaine. D'abord, dire aux opposants qu'ils recevaient qu'ils doivent se conformer à la loi électorale et quelques jours plus tôt demander à l'Assemblée nationale de trouver une solution au contentieux politique. Est-ce que ces manifestations n'ont pas un peu poussé le président à reculer finalement?
Je ne pense pas que ce soit les manifestations qui ont poussé le président à intervenir. Et je ne pense pas non plus que le président ait reculé. Je crois que le président est dans sa logique de président de la République du Bénin. Étant le président de chaque Béninois et de chaque Béninoise, il ne peut rester insensible à la situation. Et donc le président est dans son bon rôle. Mais le président nous a dit à tous qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision à lui seul en ce qui concerne un processus électoral en cours. et qu'il n'y a que l'Assemblée et les forces politiques qui puissent discuter et voir ce qu'on propose pour permettre.
Vous dites que le président n'a pas reculé, mais il est revenu sur ses propos. Il aurait pu maintenir la première position qu'il avait adoptée suite à, après la rencontre avec l'opposition, ce qui n'a pas été le cas.
Mais je crois que moi, je résume les deux sorties du chef de l'État. Ce que je retiens de fondamental, le président de la République a dit le processus électoral suit son cours. Bien entendu, chercher les voies et moyens conformes aux lois de la République pour que si nous pouvons aller dans telle direction, nous puissions aller. C'est ce que je retiens des propos du président de la République.
Comment recevez-vous quand même ce propos d'un opposant qui disait cette semaine que le pouvoir en place est devenu, je cite, une menace pour la paix sociale et la stabilité politique légendaire du Bénin, j'ai cité.
Mais je crois que l'opposant est dans son rôle, cher frère. Il est dans son rôle d'opposant. C'est la plupart du temps, c'est vrai, c'est des gens qui ont été peut-être au pouvoir hier ou d'autres encore qui ont été dans l'opposition et qui ont été avec le président de la République, qui ont quitté. Et donc tout ce qui se passe au Bénin aujourd'hui au plan politique, nous le comprenons. Nous comprenons qu'il y a certains partisans d'hier qui ne sont plus partisans du chef de l'État aujourd'hui et qui sont devenus opposants du chef de l'État, de telle sorte que nous comprenons, nous analysons les propos en les mettant dans le contexte actuel de notre pays.
Madame, est-ce qu'à partir de vos propos, on ne peut pas avoir le sentiment que vous n'êtes pas en accord parfait avec le président, parce que le sentiment qu'on peut avoir, c'est que le président joue l'apaisement, ce qui n'est pas ressenti dans votre discours, puisque vous venez d'affirmer que aller aux élections uniquement avec les candidats, les partis de la majorité, ne vous posez aucun problème. Est-ce que vous êtes en phase avec le président Talon?
Je suis complètement en phase avec le président Talon. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que le président a demandé au niveau du législateur de voir ce qu'il peut faire pour qu'on essaye de corriger s'il y a des choses à corriger. Et qu'au même moment, le président a dit, mais pour l'instant, nous savons que le processus électoral est là. Je ne peux pas arrêter le processus électoral. Et nous sommes tous dans cette disposition d'esprit qui permet qu'on trouve le bon, le juste milieu, le bon milieu qui arrange le Bénin.
Donc si au bout du compte, le président décidait de maintenir la date du 28 avril, vous iriez aux élections?
Mais écoutez, ce n'est pas que le président qui maintient la date du 28 avril. La date du 28 avril est déjà annoncée et n'a pas changé. Et nous attendons, je vous ai dit tout tantôt, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous attendons que les députés siègent et qu'ils nous disent quelles sont les dispositions qu'ils entendent prendre.
Oui, mais c'est le pouvoir, c'est le président qui a convoqué le corps électoral.
Oui, c'est le président qui a convoqué le corps électoral, mais en suivant un processus.
Madame Oudongo, on sait que plusieurs opposants sont contraints aujourd'hui à l'exil, ont été contraints à l'exil depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon.
Non, c'est des personnes qui ont voyagé et qui ne sont pas revenues au pays.
Non, écoutez. Moi je les ai rencontrés, ce sont des opposants qui sont contraints à l'exil, dont certains condamnés d'ailleurs, en leur absence, notamment Sébastien Diavon. Alors, est-ce qu'avec cette nouvelle affaire, le pouvoir ne prend pas le risque, je veux dire, d'être accusé un peu plus encore, d'exclure ses adversaires de toute compétition électorale? C'est une question qui se pose.
Écoutez, je crois que la question se trouve à deux niveaux. Nous avons des compatriotes qui sont à l'extérieur et parmi eux, il y en a qui ont voyagé, qui ont quitté le pays et qui ne sont plus revenus. Et par la suite, nous avons compris, et il a été dit, qu'ils sont des exilés politiques. Vous avez pris le cas du président Sébastien Agabon.
Je peux vous parler de Léali Soglo aussi, l'ancien maire de Cotonou.
Mais justement,
Monsieur Djenotin, qui était le patron du FCBE.
Vous connaissez, bien entendu, puisque vous avez échangé avec eux. Et vous savez les dossiers sur lesquels on leur reproche des choses. Et qu'en réalité, certains ou ceux qui veulent peuvent toujours revenir au pays, se défendre, aller devant la justice béninoise et se rendre justice. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à votre question, vous dites que est-ce que en ce qui concerne le processus électoral actuel, cela ne vient pas confirmer que le président de la République ou l'État actuel, le gouvernement, contraint certaines personnes à les
exclure. Exclut certains adversaires de compétition électorale.
On va passer.
Je ne pense pas.
Les témoins répondent.
Oui, très rapidement et on passe au prochain sujet. Madame, allez-y.
Merci.
Allez-y, madame.
Madame, vous pouvez répondre brièvement à la question de Francis, s'il vous plaît?
Oui, en ce qui concerne écarter certains opposants des élections, je ne crois pas, puisque les partis politiques continuent d'exister au Bénin. et qu'il leur suffit tout simplement de se conformer au test de la République et de présenter leur candidat aux élections.
Très bien.
Merci.
Le débat Africa BBC.
Avec notre grand témoin depuis Cotonou au téléphone, Christelle Houdanoubo, secrétaire nationale adjointe chargée de l'administration de l'Union progressiste, coalition de partis politiques de la mouvance présidentielle au Bénin. Et notre consoeur invitée depuis Lomé au téléphone, Kayi Lawson, rédactrice en chef de africarendezvous.com. Rassurez-moi, Kayi Lawson, c'est bien africarendezvous.com ou rdv.com?
Le site s'appelle Africa Rendez-vous. Ah, en ligne, on écrit africarendezvous.com.
Voilà, merci beaucoup. Nous allons parler à présent de la journée des droits de la femme. Le sens de cette célébration, comme chaque année, le monde célèbre ce 8 mai, jour de l'enregistrement de cette émission, la journée internationale des droits de la femme. Quels sont les progrès enregistrés au fil des années par les femmes en matière de droits au sein des sociétés, notamment en Afrique? Quelles sont les revendications spécifiques des femmes sur le continent? Symbolique de cette journée consacrée à la moitié de l'humanité, le gouvernement ivoirien a adopté cette semaine un projet de loi visant à renforcer la participation des femmes dans la vie politique du pays. Un quota minimum de 30% de femmes sera désormais exigé sur les listes des candidats aux élections législatives et sénatoriales notamment. Et par ailleurs, le texte indique que, je cite, tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors de ces scrutins pourra se prévaloir d'un financement public supplémentaire. Fin de citation. Alors, la Côte d'Ivoire rejoint ici certains pays tels que le Rwanda ou l'Éthiopie dans le palmarès des pays leaders en matière de promotion de la femme dans la vie politique. Première question pour vous, Madame Christelle Houdanoubo. Est-ce que le combat des femmes pour la reconnaissance de leurs droits passe aussi par l'engagement politique? Manifestement, c'est votre cas.
Oui, je crois que sur cette question, je suis formelle. Je pense que l'engagement politique de la femme, et quand on parle de la femme, c'est dans tout secteur, l'engagement de la femme est essentiel. Les mesures incitatives viendront compléter en fait la fondation qu'on aurait mise en place en tant que femme, en tant que engagée, en tant que citoyenne engagée au service donc de sa nation. Les tests de loi à eux seuls ne suffisent pas pour permettre un résultat en ce qui concerne l'engagement des femmes en politique et dans d'autres domaines. C'est mon point de vue.
Et Kayi, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le sens pour vous aujourd'hui de la journée internationale de la femme? Vous êtes femme journaliste. Quel sens aujourd'hui a cette célébration pour vous?
Mais écoutez, vous savez, pour moi, cette journée, en fait, est une journée de rappel des engagements pris vis-à-vis et donc de la femme. C'est aussi une journée de bilan. Et peut-être une journée qui nous permet d'ajuster les engagements, d'ajuster les projets et plans pris pour l'amélioration de la condition de la femme et d'avancer. Je pense que c'est une journée qui permet à la femme de se mirer et de savoir qu'elle constitue un élément fondamental pour sa société, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. C'est un jour qui doit permettre aux dirigeants de comprendre que la femme doit être en fait prise dans son milieu. Et quand la femme est prise dans son milieu, c'est qu'on travaille sur l'environnement de la femme, rendre l'environnement de la femme épanoui, rendre à la femme un environnement sain, accessible, ce qui rejaillit sur la femme et lui permet de s'épanouir même si elle est dans son milieu. Et donc, pour résumer, en fait, il faut travailler pour offrir à la femme un environnement qui lui permette de s'épanouir.
D'accord, mais Francis parlait tout à l'heure des mesures annoncées par le gouvernement ivoirien. On sait aussi qu'au Sénégal, il y a une loi sur la parité. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que des dispositifs juridiques comme cela, est-ce que ils peuvent arriver, ils peuvent être vraiment l'accélérateur de l'égalité homme-femme? Qu'est-ce que la loi peut changer?
La loi permettra en fait la présence des femmes dans les instances de prise de décision, tout simplement. La présence. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'il ne suffit pas d'être présent au poste de décision ou dans les instances de décision. Il faut y être parce qu'on y trouve sa place.
Mais on a vu par exemple pour le cas du Sénégal que je viens de mentionner, il y a une loi sur la parité, mais lors des dernières élections présidentielles, on a bien observé qu'il n'y avait aucune femme candidate, en fin de compte.
Oui,
Oui, en fait, quand vous parlez de la parité en ce qui concerne les élections, ce n'est pas parité qu'on dise que fondamentalement ou essentiellement qu'il y ait une élection présidentielle et qu'il y ait une femme candidate. Non, ce n'est pas ça. C'est au niveau surtout des élections législatives et plus à la base. Qu'ils puissent positionner tel ou tel. Nous avons 5 hommes députés, 5 femmes députées. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, ce que la Côte d'Ivoire a fait, certainement que nous allons applaudir pour dire « mais chapeau, c'est bon ». Mais il faut un
être travail. Être candidat ne signifie pas qu'elles pourront être élues.
Être candidat ne veut pas dire que vous serez élu. Et à tout moment, vous ne pouvez pas. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois aussi au Bénin, quand nous avons parler de la révision de la Constitution, où il faut trouver une place aux femmes. Et il a été dit qu'il faut que par circonscription électorale, concéder un siège aux femmes béninoises. Bien entendu que la Constitution n'a pas été révisée. Au niveau du code électoral, nous n'avons plus rien fait parce qu'au niveau de notre Constitution, nous sommes tous consacrés les mêmes droits à tous.
Merci.
Et donc, il faut aller chercher des mesures discriminatoires pour permettre à la femme d'aller au-devant des choses. Mais je ne pense pas que ce soit la solution, la bonne solution. La bonne solution, c'est déjà que la femme s'engage, que la femme travaille, que la femme soit méritante, qu'elle soit qualifiée pour le poste. Et
merci.
Dès lors que vous avez ces critères, vous avez ces qualités, vous pouvez utiliser les mesures discriminatoires pour accompagner.
Merci Madame Oudo-Nubo. Vous avez répondu à la place de Kayi. Bon, c'est, je voulais entendre Kayi sur ce sujet, mais bon, je pense qu'elle va s'exprimer maintenant avec Francis.
Oui, oui. Alors, Kayi Lawson, on sait quand même la place prépondérant des femmes dans les familles dans plusieurs pays d'Afrique. On sait aussi que dans bon nombre de pays, les femmes ont acquis un réel poids économique, notamment au Togo, d'ailleurs, où vous vous trouvez, Kayi. Comment vous expliquez que les femmes continuent quand même à subir diverses formes de violences, discrimination au travail, violences sexuelles, mariage forcé, soumission d'ailleurs aux hommes et aux familles? Pourquoi les mentalités...
Disparité salariale.
Voilà, disparité salariale, bien sûr, Liliane, vous faites bien de le mentionner. C'est important d'ailleurs, aujourd'hui d'ailleurs, il y a une grève hein, à 15, aujourd'hui, cet après-midi, les femmes font grève pour justement marquer, justement pour dénoncer cette inégalité salariale. Non, ma question était celle-ci, Kayi Lawson, pourquoi les mentalités ne reflètent pas le véritable rôle des femmes dans nos sociétés africaines?
En fait, il faut d'abord souligner les origines culturelles. Il est très difficile pour nous, les femmes, de concevoir que tant que vous avez un pouvoir d'achat, vous devenez un guillemets légal de l'homme. Parce qu'il a été appris à la jeune fille depuis le bas âge que tu n'es pas légal de l'homme. Même avec un niveau intellectuel assez élevé, vous ne vous sentez pas vraiment égal à cet homme-là. Moi, je me rappelle à l'université, il y a mes camarades qui disaient, après la licence, je vais arrêter l'école et je vais aller chercher un mari, je vais aller faire des enfants. Et voir si possible, je peux revenir faire le master. Et il y a une grande soeur qui nous disait, être mariée et mère d'eux, bien femme d'eux, n'est pas une profession. Dans notre culture, on pense que ce n'est qu'en étant femme de quelqu'un qu'on a un statut dans la société. Mmh. Alors que le statut, ça s'acquiert, ça ne se donne pas. Je veux un peu revenir sur le côté politique, on parle de la prise de décision en faisant référence à la loi votée par la Côte d'Ivoire. Au Togo, il y a une disposition qui a été prise qui dit que les femmes qui sont inscrites sur une liste électorale ou législative, par exemple, bénéficient de moitié de la caution qu'elles doivent payer. Mais ça, oui, c'est fait pour que les femmes puissent prendre leur place à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, on regrette que sur ces listes, on mette les femmes en bas de la liste, ce qui fait que oui, les femmes bénéficient de ces dispositions-là.
Donc, Kayi, on peut dire que de bonnes lois ne suffisent pas à régler ces problèmes.
Ça ne suffit pas. Mais vous allez également remarquer que le problème fondamental, c'est que les femmes n'ont pas confiance aux femmes. Dès qu'une femme se met au devant de la scène, c'est sûr qu'ils devraient la soutenir, ne marche pas avec elle. Donc aujourd'hui, oui, il nous faut des lois pour pouvoir avancer, mais il faut un changement de mentalité. Il faut renforcer la solidarité féminine pour qu'on puisse avancer.
Et je vais peut-être rappeler pour Francis, qui est minoritaire pour ce plateau, pour une
absolument,
fois.
Oui.
Voilà, moi-même, je me rappelle.
Ne m'en plains pas.
Je me rappelle, je me dis, est-ce que la loi suffit, je le disais, est-ce que la vraie approche ne consiste pas à mieux sensibiliser les femmes femme elle-même pour un changement de comportement et même, disons, même du raisonnement. Parce que je me rappelle aussi une fois, je suis montée dans un car de transport en commun et je me suis installée voilà, à la cabine de conduite. Et voilà, j'observais un regard malveillant des autres femmes qui étaient dans la voiture. D'autres m'ont rapidement rappelé quelle était la véritable place, selon elles, d'une femme dans une voiture de transport public. Est-ce qu'il ne faut pas que les femmes elles-mêmes arrivent à transformer le regard qu'elles ont d'elles-mêmes?
Je pense que le travail revient à nous, les femmes, aujourd'hui, d'inculquer cette nouvelle culture-là à nos enfants. Puisque nous, aujourd'hui, on a été moulés, on a été formatés. Et que ça ne peut pas changer dès notre génération.
Pour occuper les secondes places.
Oui, mais nous avons le devoir de l'inculquer à la nouvelle génération, aussi bien aux garçons qu'à la jeune fille. Avant, on disait que c'est le garçon qui doit jouer au ballon pendant que la fille doit être à la cuisine. Mais aujourd'hui, nous constatons que et les garçons et la fille peuvent aller à la cuisine et après aller jouer au ballon en même temps. Il faut inculquer cette nouvelle notion, cette nouvelle culture-là. À nous avoir, peut-être que dans 25 ans, dans 50 ans, nous aurons les résultats que nous souhaitons aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous parlons du 8 mars. Le 8 mars, ça n'a pas été décrété, c'est une longue marche, plus de 100 ans de marche pour pouvoir aboutir aujourd'hui à quelques résultats. Même si le résultat que nous escomptons, nous ne l'avons pas, au moins aujourd'hui les langues sont déliées.
Merci.
Il y a des cas de violence qu'on peut dénoncer, ce qui n'était pas le cas. Il y a 20 ans, il y a 25 ans.
Merci, Kaye. Donc, c'est-à-dire que le chemin reste encore long. Francis, vous permettez, on passe au prochain sujet. Sinon, je peux demander une dernière question à notre invité.
Oui,
c'était juste
non,
pour
non,
savoir...
Je juste que Mme Houdon-Bouin conclue. Hein, je crois que vous allez confirmer que cette révolution culturelle ou des mentalités dont parlait à l'instant Kaye Lawson reste encore, faut encore la poursuivre pour un moment.
Absolument, elle a complètement raison, Kaye. Et je crois que depuis des décennies, nous avons orienté la question de la femme dans un seul sens. Et jusque-là, nous n'avons pas trouvé de résultat, nous n'avons pas trouvé de réponse à la question de la femme. Il faut changer de cap. Il faut ramener la question de la femme dans la société africaine. Même au plan international, que chaque société ramène la question de la femme dans sa société.
Et en un mot, madame, quelles sont les principales entraves à l'égalité homme-femme au Bénin? Vraiment, en un mot.
Écoutez, les entraves, c'est ce dont nous avons toujours parlé. Et je me dis, ces entraves, c'est ce que nous créons déjà, nous-mêmes, en tant que femmes. Et vous avez parlé tout à l'heure du regard que projette une femme, par exemple, de l'autre, qui est plus portée vers les actions publiques. Et ça part déjà de là. C'est la femme qui projette un regard sur la société. C'est la femme qui donne en réalité une image à la femme devant la société.
Merci.
Et c'est la femme même qui revient, qui pense qu'il faut dire à l'autre femme ce qu'elle doit faire et ou ce qu'elle ne doit pas faire.
Et lui rappeler quelle est sa place. Merci beaucoup.
Quelle est sa place.
Merci beaucoup.
Et donc, ça doit commencer justement par la femme.
Et on va justement parler encore de femmes qui se sont mobilisées pour les protestations contre le cinquième mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Les manifestations se sont poursuivies vendredi, journée internationale de la femme. Et nous allons écouter le récit du correspondant de BBC Africa, Alger, Mohamed Areskim.
À Alger, les manifestations ont débuté dans le quartier de la Grande Poste et à la place du 1er mai au centre de la ville. Les femmes sont encore plus nombreuses ce vendredi. Les manifestations coïncident avec la journée internationale de la femme. Les jeunes, garçons et filles confondus, des étudiants et lycéens pour la plupart, ont déployé des pancartes et des banderoles. Nombreux parmi les manifestants se sont couverts avec l'emblème national. Certains le portent autour du cou ou le hissent au-dessus de la grande foule. Le dispositif policier, équipé de canons à eau et étrangers anti-émeutes, a été renforcé. Il y a plus de policiers et d'engins, notamment au centre de la ville et dans les points sensibles tels que les sièges de la présidence, du gouvernement et du conseil constitutionnel. Des femmes vétérans de la guerre d'indépendance sont de la partie. Des syndicats, des associations et des personnalités politiques continuent de rallier les jeunes manifestants opposés au cinquième mandat du président Bouteflika. D'Alger, Mohamed Areskim pour BBC Afrique.
Madame Houndon-Noubo, au regard de l'ampleur des manifestations, est-ce qu'on peut en conclure que cette candidature est une candidature de trop pour Bouteflika et comment voyez-vous l'issue de cette crise politique en Algérie?
c'est certainement une candidature malheureuse pour l'Algérie. Et c'est une malheureuse image que l'Algérie projette sur l'échiquier international. Vous avez vu, ce sont ces mêmes femmes qui, par le passé, l'ont soutenu, ont été à ses côtés, qui aujourd'hui pensent qu'il peut quand même permettre à une autre génération de prendre en main ce pays. Et je crois quand même qu'il va falloir, bien entendu que Bouteflika est resté des décennies, a forgé sa base, et certainement que sa présence arrange les barons de son pouvoir. Et dès lors que sa présence les arrange, ils soutiendront qu'il reste candidat. Mais je pense quand même qu'il va falloir qu'au niveau de l'Afrique, au niveau vraiment de l'Afrique, de l'UA, que les instances habilitées à engager des discussions puissent engager les discussions.
Donc vous voyez plutôt une issue négociée à cette crise ?
Il faut une issue, absolument, il faut une issue négociée pour ne pas créer d'autres tensions sur le continent. Nous ne souhaitons pas et puis nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres tensions et que l'Algérie s'embrase. Donc je pense qu'à des niveaux donnés, il faut des discussions, il faut des négociations, il faut négocier le retrait de Bouteflika.
Comment négocier tout cela, Kaï Larson, vous paraît pour arriver à une issue apaisée? Parce que une des réactions des partisans du pouvoir, ça a été par exemple de dire que le président Bouteflika a promis d'écourter son mandat en cas de réélection et d'organiser une présidentielle anticipée à laquelle il s'engage à ne pas se présenter, une présidentielle qui, dit-il, va assurer sa succession dans des conditions incontestables. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette manière de gérer une crise?
Comment vous pouvez comprendre une telle chose?
Kaï, excusez-moi madame, vous permettez à Kaï de répondre rapidement? Kaï, oui?
Moi, je pense que c'est une déclaration de trop. Comment vous... un président énergétique qui n'arrive pas à jouer du pouvoir, qui n'arrive pas à jouer véritablement votre rôle et sans malade, vous pouvez prétendre organiser des élections anticipées. Le mieux pour Bouteflika, c'est de se retirer maintenant et laisser l'Algérie être gouvernée par d'autres personnes. Moi, je me dis même que ce n'est pas Bouteflika qui gouverne actuellement l'Algérie et que ce sont ces dires qui ont intérêt à le maintenir en léthargie pour pouvoir profiter du pays. Cette candidature, elle est de trop, il faut reconnaître. Et Bouteflika a intérêt à partir maintenant.
Une conclusion, Madame Ounaloumba.
Merci beaucoup, mais je suis dans la même logique et je le disais tout à l'heure qu'il faut quand même négocier le retrait de Bouteflika et donner un peu plus d'air à l'Algérie.
Mais quand vous voyez comment la crise est gérée aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, je dirais, d'un fossé entre le camp du pouvoir et la réalité de ce pays, notamment la population qui manifeste aujourd'hui?
Mais oui, cette distance s'est déjà installée entre le pouvoir et la population depuis quelques années. Et là, je crois que le pouvoir essaie de gérer la situation en Algérie. Mais la réalité est maintenant connue. Il va falloir que des dispositions se prennent à des niveaux donnés pour que nous n'allions pas au pire.
Et si justement l'après Bouteflika n'était pas encore préparé par le camp du pouvoir?
Mais je crois que c'est aussi là l'inquiétude certainement du pouvoir Bouteflika. Mais comment pourrait-on comprendre que l'après Bouteflika ne soit pas préparé par le camp de Bouteflika après toutes ces années de pouvoir, toutes ces années de maladie?
C'est le cinquième mandat.
Absolument. Cela montre à quel point dans la gestion de nos pays, nous avons des failles, nous avons des légèretés, ou voir que où nous faisons exprès ou il nous faut autre chose. Il faut une autre vision de la gestion de nos pays. Après ces mandats au pouvoir, qu'aujourd'hui, qu'on ne trouve pas l'issue qu'il faut pour gérer après Bouteflika, c'est un échec.
Donc vous pensez peut-être le pouvoir est lui-même surpris par l'ampleur de la réaction des populations algériennes?
Oh ben, mais non, le camp Bouteflika devait s'attendre à cette réaction.
Oui. Ça confirme le fossé, évidemment, entre le camp du pouvoir et la population. Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs sur messages postés sur Internet. Messages recueillis et livrés à présent par Richard Thierry Mboué Kijina.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Bénin, Basile Lokosou demande à notre grand témoin de nous donner son avis sur la gestion du pays par Patrice Talon. Télé Gomba Barry, de son côté, avoue être déçu de Patrice Talon et pense que la dictature s'installe peu à peu Obine. Et Ita et Chrislin Géou-Azon se demandent si l'on pourrait réaliser le progrès sans la diversité d'opinion. Journée internationale de la femme pour Gilles-Marc à Lyosa, cette célébration n'a plus de sens. Selon notre auditeur de Cotonou, cette journée ne se limite qu'à un moment de victuailles, d'exposition de vêtements et de danse pour les femmes. Léona Kataï de son côté se questionne sur l'image de la jeune fille qui très souvent n'est qu'utilisée que dans des magazines de maisons de couture. Et enfin, sur l'Algérie, Charles Bazema appelle le président Bouteflika à avoir pitié de son peuple. Car selon lui, le bras de fer n'engendre que déception et désarroi. Et Albert Sangaré, pour sa part, s'interroge sur le mutisme de l'Union africaine. Merci Amida So, Émile Sédégan et Ibrahima Khalil Bérété qui nous ont rejoints cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci. Merci Richard, Thierry, merci beaucoup. Peut-être répondre à quelques questions en guise de conclusion, Madame Houndongbo. C'est toi qui dit la dictature s'installe peu à peu au Bénin.
Voilà, un autre qui dit qu'il est déçu de Patrice Talon.
Mais je comprends bien sa réaction qui dit que la dictature s'installe peu à peu au Bénin. En entame de l'émission, je vous disais que nous nous sommes installés dans certaines pratiques, dans certaines habitudes dans notre pays depuis 30 ans. Démocratie à tout vent, où tout est permis, où nous avons toutes les libertés et que nous n'avons plus de devoirs dans le pays. Aujourd'hui, que le président Patrice Talon est venu avec les réformes et nous dit qu'est-ce que nous devons faire pour amorcer le développement de notre pays, je crois que ça devient dur pour les uns et les autres. Et donc, je comprends.
Mais quelle est l'utilité de faire des réformes si elles ne sont pas inclusives? Parce que celles pour lesquelles on prend les réformes doivent être bien appliquées.
Et consensuelles.
Elles sont consensuelles et inclusives, mais en matière de réformes, vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas avoir à 100% l'adhésion des uns et des autres. Dès lors que les intérêts sont bousculés, il y aura toujours des crincements dedans. Et c'est en cela que je dis qu'il va falloir que nous patientons. Je vous dis, et c'est un défi que nous nous donnons au Bénin, que d'ici quelques années, nous serons tous heureux d'avoir supporté et soutenu ces réformes. Je comprends les populations béninoises. Je comprends le désarroi des uns et des autres. Je comprends ceux qui se sont déjà installés dans un certain confort et qui sont aujourd'hui bousculés. Nous comprenons la chose.
Mais ces libertés dont vous parlez ont été chèrement acquises, Madame Houndongbo.
Et nous garderons ces libertés en République du Bénin, mais tout en respectant les normes, tout en mettant chacun à sa place.
Donc ces réformes sont pour le bien. Ces réformes sont pour le bien des populations béninoises et non au bénéfice du président Talon.
Non, c'est pour les populations béninoises et je crois qu'aujourd'hui, la population n'a pas encore très bien compris le bien fondé de ces réformes. Mmh. Il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'on continue de sensibiliser, de parler aux populations et de leur montrer l'intérêt que nous avons tous à engager les réformes ensemble.
Merci. Merci Madame Christine Houndongbo, merci d'avoir apporté votre parole dans ce débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris, vous êtes secrétaire nationale, adjointe chargée de l'administration de l'Union progressiste, une coalition de partis de la mouvement présidentielle au Bénin, mais vous êtes également candidate à la prochaine élection, aux prochaines élections législatives prévues pour le 28 avril prochain au Bénin. Merci à notre consoeur Kay Lawson, rédactrice en chef d'Africa Rendez-vous.com, qui intervenait depuis Lomé au Togo. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop, régie technique assurée à Paris par François Richard, chargé de production Richard Thierry Umbué Kijina. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de nos radios partenaires.
Mais Francis, ne vous en allez pas. Poème ou chanson?
On n'a plus le temps, ce sera pour
Le duo féminin invité cette semaine à l'occasion de la fête internationale de la femme. Vous écoute, moi aussi d'ailleurs.
L'intention y est fortement, évidemment. Et je salue évidemment toutes les femmes du monde.
Je n'ai plus confiance en vous.
Bravo.
En tout cas, merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.
Votre confiance est intacte, je sais.
Au revoir.
Au revoir.